I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
Que ce soit dans sa vie quotidienne ou professionnelle, on cherche naturellement à améliorer sa sociabilité, accroître sa confiance en soi ou simplement dépasser la peur du regard des autres. Pour certains, la timidité peut même être handicapante. De quelle manière ne pas être limité par sa timidité ? Comment sublimer ses interactions ? De quelle façon attirer naturellement les gens à soi ? Notre invité du jour est un ancien timide, désormais capable d'interagir avec un public de plus de 2000 personnes lors de ses spectacles de mentalistes. Passionné de psychologie et d'illusionnisme, il s'est formé au fonctionnement subtil du cerveau pour devenir un artiste de scène et un créateur de contenu. À travers ses conseils pratiques, des exemples personnels et des outils concrets, découvrez sa méthode qui permet de rayonner sans difficulté. Intitulé « Deviens un aimant social », son deuxième livre est disponible aux éditions Albin Michel. Salut Charlie et merci.
Salut Xavier, merci de l'invitation.
Avec grand plaisir. Tu es en forme ?
Ouais, ça va.
Parfait. Alors, déjà pour apporter un peu de contexte aux auditeurs, Charlie, à une époque, apparemment, tu n'étais pas capable d'appeler une pizzeria sans répéter plusieurs fois en amont la commande. Et désormais, tu joues devant des centaines et centaines de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter les origines de ta timidité pour bien comprendre l'ampleur de ce trouble, s'il te plaît ?
Ouais, carrément. En fait, de base, je suis un garçon assez timide et l'idée du livre, ça m'est venu d'une discussion que j'ai eue avec ma mère qui me dit « C'est fou maintenant que tu fasses des spectacles, ce genre de choses, alors que quand t'étais petit, tu te cachais derrière moi dès que je te présentais quelqu'un, tu rougissais hyper facilement. » Et en vrai, je rougis encore facilement. Et elle m'a raconté plein de choses que je faisais quand j'étais petit et c'est vrai que du coup, ça m'a débloqué des souvenirs et je me suis dit « Effectivement, c'est quoi le process que j'ai fait pour arriver à un stade où je peux faire des spectacles ?» Parce qu'il y a eu un process. Et qu'est-ce qui fait que quand j'étais petit, j'osais pas lever la main en cours, j'osais pas regarder les gens dans les yeux, je bégayais dès que je parlais, je devenais très rouge facilement. Donc j'ai un peu repris un peu les bases de mon parcours et j'essaie de comprendre d'où je venais et de réfléchir un peu rétrospectivement sur ma vie. Et c'est un peu comme ça que j'en suis venu à la conclusion du livre et à conclure un peu tous les process basés sur le fonctionnement de notre cerveau et sur mon expérience qui m'ont permis d'être à l'aise et de parler en vrai à n'importe qui, c'est un peu ça le but.
Et ça a mis combien de temps, du coup, entre guillemets, entre cette réalisation, enfin ce questionnement sur les origines de ta timidité et le jour où tu t'estimes, en tout cas, même si on a toujours parfois un peu de timidité encore,
ouais,
tu t'estimes un petit peu plus tranquille, apaisé en tout cas.
Je pense que ça s'est fait au moment où j'ai arrêté mon école d'ingénieur, à peu près à ce moment-là. Je l'ai arrêté pour faire des vidéos et vivre de ma passion, qui est le mentalisme. Et en fait, à ce moment-là, en école d'ingénieur, j'étais encore très timide, en vrai. Donc c'était il y a peut-être 4-5 ans, 4-5 ans. Et avec un ami à moi, on faisait des exercices dans la rue. La stratégie, c'était d'aller voir des gens tous les jeudis après-midi et de se lancer des petits défis. Au début, c'était juste dire bonjour à des inconnus. Et puis, on a fait ça étape par étape. Après, on commençait à demander des prénoms, on discutait, on posait des questions profondes. Et c'était ça le but. Et on le faisait tous les jours, enfin, tous les jeudis après-midi pendant 10 mois, on a dû faire ça. Et c'est vraiment le truc qui a eu un déclic sur ma vie, en vrai, au niveau de la timidité. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que j'avais plus vraiment de problème à parler à n'importe qui.
De toute façon, on va en parler un petit peu de ces exercices en public, même dans la rue, comme tu dis. Et juste en parlant un peu de ton parcours aussi, c'était quoi les plus grands défis qu'on rencontre quand on est un grand ou une grande timide ?
Je pense que tous les timides nous seront d'accord avec ça. C'est vraiment les moments où il y a plein de gens et plein de gens que tu connais pas, en vrai. Donc, ça peut être la rentrée des classes. Tu connais pas ta classe, tu connais pas les nouvelles personnes quand t'es plus jeune. Ça peut être un premier jour au bureau ou au travail, etc. Ça peut être quand tu vas dans une soirée où tu connais pas beaucoup de monde. Et même dans la rue, quand il y a beaucoup de monde, en général... on n'est pas forcément très à l'aise, on n'ose pas interagir avec les gens. Et puis quand c'est très poussé, comme je l'ai été aussi plus petit, c'est dès que tu rencontres un inconnu, en vrai.
Donc c'est ça, ouais, un peu la nouveauté ou la, et ou la quantité.
Ouais, carrément. Ça, ouais, c'est ça, ça. Très bien résumé. Ouais.
Je t'en prie. Je comprends. Et alors, tu parlais pour le coup de mentalisme. Et c'est très jeune que tu t'y intéresses, hein, l'illusionnisme, le mentalisme.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement et quels moyens as-tu utilisé pour surmonter ton anxiété sociale et te lancer dans le monde du spectacle?
Alors, le mentalisme, c'est une très vaste question. Qu'est-ce que le mentalisme? Mais pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de définition du mentalisme. Ça n'existe pas vraiment, en vrai. Et c'est ça qui est cool avec le mentalisme, c'est qu'en fait, chaque mentaliste y met un peu ce qu'il aime derrière. Et donc, d'accord, moi, j'ai réuni toutes mes passions dedans, qui sont la psychologie, l'illusionnisme, mémotechnie, la manipulation, la psychologie du mensonge, tous ces petits domaines séparés qui, tous ensemble, créent mon mentalisme. Et puis après, c'était quoi ta deuxième question?
C'est quels sont les moyens que tu as utilisés pour surmonter ton anxiété sociale et être sur scène, finalement?
Ouais. Le fait de m'être renseigné et d'avoir appris des compétences de mentaliste, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre les autres, en vrai, tout l'aspect psychologique. Et moi, il y a une chose, je pense, si je devais retenir une chose de mon livre et de tout ce que j'ai fait dans ma vie pour challenger mon anxiété sociale, c'est l'échauffement social. C'est vraiment la seule chose, enfin la chose essentielle, je pense. C'est-à-dire que quand on interagit avec les gens, notre cerveau, il a besoin de s'échauffer. C'est comme avant une séance de sport.
Ouais, comme un sport, ok.
Exactement. Et tu peux t'échauffer très facilement en disant bonjour aux gens que tu croises dans la rue quand tu vas vers ton entretien d'embauche, peut-être en demandant leur prénom, pareil, si t'es plus à l'aise, en demandant l'heure, si t'as des potes, juste discuter avec eux. En fait, ça va être toutes les petites interactions que tu vas pouvoir faire avec des gens avant le moment qui te stresse ou avant la grosse interaction que tu devrais avoir. Parce qu'en général, tu fais ça avant une interaction qui te stresse. Et tout ça, ça va avoir pour but d'échauffer ton cerveau. En fait, en général, notre cerveau, comment il fonctionne, c'est plus tu fais des actions en lien avec un sujet, plus ton cerveau, il va se concentrer sur ce sujet. Si tu veux résoudre des exercices de maths, tu vas faire plein d'exercices, puis tu vas commencer à être très concentré sur les exercices et tu vas avoir un état de, ce qu'on peut appeler un état de flow, donc tu vas être très concentré là-dedans. Et ben, c'est pareil avec les interactions sociales. Tu interagis avec plein de gens et plus tu vas le faire sur une courte durée, plus tu vas être à l'aise socialement. Et ce truc-là, peu importe qui t'es, ça fonctionne.
Et tu le conseillerais limite plus que se prendre un temps seul avec de la musique dans le silence, par exemple? Enfin, ton conseil, ça serait...
C'est intéressant. Alors, moi, je parle de ce qui a fonctionné sur moi.
Bien sûr, oui.
Mais j'ai fait beaucoup de moments un peu introspectifs, réfléchir sur soi, prendre du temps pour essayer de challenger son regard des autres. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui fonctionne vraiment, en tout cas pour moi. Ce qui a vraiment fonctionné, c'est d'interagir, en vrai.
D'accord.
Tu peux penser des heures seul chez toi à te dire « il faudrait que je sois plus à l'aise ». Tant que t'agis pas et que tu testes pas des trucs, t'oses pas parler aux gens, tu vas pas vraiment progresser. En tout cas, j'ai l'impression.
Ouais, en tout cas, comme un sportif,
ouais,
une session d'entraînement, un échauffement social qui est peut-être sur le chemin pour aller à son date,
ouais,
pour aller à cet entretien ou pour aller à ce rendez-vous un peu important. Quoi.
Ouais, ou cette soirée qui te stresse parce que tu connais personne, tu vois.
Ouais, et déjà aller à une soirée quand on connaît personne seul, c'est déjà qu'on s'est échauffé, j'ai l'impression, chez soi, non?
Ouais, ou alors quand t'arrives à la soirée, profites-en pour avoir plein de small talk avec les gens, plein de petites discussions basiques. Et le fait de le faire, au bout de 10 minutes, tu vas déjà être beaucoup plus dans la soirée. Parce qu'il y a des fois où tu te sens pas vraiment dans le moment. Il y a plein de gens et tu te dis « qu'est-ce que je fais là? Je suis pas trop au bon endroit. » Et juste interagir, ça fait vraiment la différence.
Et puis ça a été un petit peu aussi la voix dans ta tête.
Ouais, exactement. Ouais,
ce petit diable ou ce petit démon ou ce petit ange.
C'est ça, tout ça je le développe un peu plus dans le livre. Il y a un vrai cheminement derrière. Mais c'est vrai que le fait juste d'interagir, ça cut la voix. Et en fait, la petite voix, c'est le moment où le cortisol, un peu l'hormone du stress, elle se sécrète. Et ça prend 3-4 secondes à sécréter dans nos têtes quand il y a un événement qui nous stresse.
Hyper rapide.
Et c'est assez rapide, sauf que du coup, si tu interagis avant ces 3-4 secondes où tu satures ton cerveau, en mode tu te répètes 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tu vas vers la personne, ça fonctionne pour éviter que ce truc-là commence à sécréter et que tu commences à être paralysé, à penser, à overthinker, à penser à plein de choses.
Bien sûr. Donc ça, c'est une première technique, j'aime bien.
Ouais.
L'effet de compter, du coup, de faire le décompte un peu dans sa tête,
ouais,
pour
ça.
Bloquer le cerveau, en fait.
Exactement. Tu te dis 1, 2, 3, 4, 5, j'y vais, bonjour. Et ça suffit pour empêcher que ton cerveau il commence à penser à plein de trucs.
Super. Bon, ça fait partie du livre, il y en a plein d'autres un
ouais,
peu comme
bien
ça.
Sûr. Je sais.
Alors, pour le coup, une de tes manières un peu de répondre à toutes tes questions, quand tu étais encore timide ou hésitant sur certaines actions, tu as voulu explorer et fouiller un peu le cerveau, le comprendre.
Ouais.
Alors, comment tu t'es formé à son fonctionnement et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est timide? Donc, il y a ce côté de. Il y a la cortisol, pardon?
Je dirais que c'est la cortisol.
C'est la cortisol.
La cortisol, je pense, c'est l'hormone, en tout cas, l'hormone du cortisol, peut-être. C'est vraiment ce qu'on dit du cortisol.
En tout cas, il y a cette hormone, du
y
coup.
Y cette hormone-là.
Qui se crée, on va généraliser, c'est
ouais,
simple. Et comment tu t'y es formé? À quoi tu t'es intéressé? C'est des reportages, des magazines? Comment t'as fait?
Alors, j'ai lu pas mal de livres, même beaucoup de livres sur la psychologie, des livres plutôt au début des bases un peu de psycho des années 1900, etc. Et puis après, je me suis aussi intéressé à des trucs plus modernes, etc. Donc j'ai un peu plein de sources de partout, des vidéos YouTube aussi, ça fonctionne, des articles. En fait, toutes les informations que je pouvais choper quelque part, je les lisais. Ça m'a vite passionné. Et le sujet qui m'a le plus passionné, c'est les biais cognitifs. Je crois qu'on dit cognitifs. C'est passionnant parce qu'en fait, c'est ce qui régit un peu notre cerveau. C'est ce qui régit nos interactions. C'est toutes les failles, entre guillemets, de notre cerveau qui sont là de base pour nous faire gagner du temps et nous aider à vivre correctement sans faire des suppositions surtout. Mais des fois, ça nous piège aussi. Et il y en a plein qui sont liés aux interactions sociales et quand tu les connais, bah, ça aide beaucoup aussi pour interagir.
Alors pour le coup, ces biais, je voulais t'en parler, donc c'est parfait. C'est quand on fait face un peu à cette peur de l'échange.
Ouais.
Typiquement, qu'on a un peu une perception qui est souvent altérée.
Ouais.
En fait, on se fait notre propre scénario. Et donc, ces biais, est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce qu'un biais et comment on peut lutter contre ces biais pour un peu influencer nos interactions sociales?
Pour moi, le meilleur exemple de ce que c'est un biais cognitif, ça va être de le comparer à une illusion d'optique. En fait, pour notre cerveau, les biais cognitifs, c'est exactement ce que sont les illusions d'optique pour nos yeux. Par exemple, imaginons que tu vois, je sais pas, un énorme trou, ça c'est l'exemple que je prends dans le livre, un énorme trou au sol qui te paraît très réaliste, mais qu'en réalité, qui est une illusion d'optique. En fait, s'il te paraît vraiment réaliste à un point où tu doutes du fait que ce soit un trou, il y a très peu de chances que tu oses marcher dessus. Si c'est un trou sans fond, il y a très peu de chances que tu y ailles. Tu vois. Même si tu te dis non, c'est pas la réalité, si ton cerveau est convaincu que ça l'est, on n'ose pas forcément y aller. Et c'est un peu pareil avec les biais cognitifs. En fait, si tu découvres que tu es victime d'un biais, tu vas quand même le percevoir comme étant la réalité. Et pour autant, ça ne l'est pas forcément. Donc par exemple, il y a un biais assez connu qui va être le biais de confirmation. C'est-à-dire que notre cerveau, il a tendance à chercher un petit peu tous les éléments qui confirment sa pensée. Et donc même si tu as conscience de ce biais-là, ton cerveau, il continuera de fonctionner comme ça. C'est inévitable. Donc ce qui est intéressant, c'est d'en avoir conscience et donc après de dire, ok, là je suis dans ce biais, je sais que ça me paraît très réel, mais je suis quand même dedans. Et donc pour le biais de confirmation, par exemple, c'est se dire que quand tu fais une recherche sur Google, je ne vais pas taper pourquoi est-ce que le livre de Charlie est super. Non, tu tapes avis sur le livre de Charlie Head, et là, t'es beaucoup plus objectif.
Bien sûr, voilà. C'est ça. C'est un peu ce manque d'objectivité que parfois on vient chercher,
exactement.
Et qui est rassurant.
Ouais, c'est rassurant, et après, des fois, ça peut aller plus loin. Même les algorithmes vous recommandez ce qu'on regarde le plus, donc ça reste encore plus dans ce biais-là. Tout confirme un petit peu ce qu'on a envie de penser. Et c'est intéressant d'avoir des informations sur les différents biais. Il y en a plein, ça c'est un exemple d'un seul, mais il y en a plein d'autres.
Et tu en aurais un autre là à nous partager, et comment peut-être aussi le contrer, ce biais?
Ouais, carrément, il y a les anticipations négatives, qui est aussi une forme de biais cognitif. Et l'idée, c'est que quand on va interagir avec des gens de façon générale, donc là, on va lier aux interactions, mais ça marche pour tous les domaines, on va avoir tendance à avoir des pensées qui ont peur un petit peu de ce qui pourrait se passer. En fait, notre cerveau, il anticipe tout. Et donc, très généralement, c'est négatif. Et il se dit, est-ce que si j'interagis avec cette personne, je ne vais pas la déranger? Est-ce que si je lui parle, est-ce que ça ne va pas la saouler? Est-ce qu'elle ne va pas m'envoyer voir ailleurs? En fait, il va imaginer un peu tous les scénarios négatifs possibles qui pourraient se passer, alors qu'à tout moment, tu vas lui parler, elle te répond bonjour et vous passez un bon moment. Quoi. Et ça, c'est un biais qui est inévitable. En fait, ton cerveau, il a envie de tout estimer pour éviter de te faire prendre trop de risques. C'est le but, hein, c'est que tu ne te fasses pas rejeter. Quoi.
Est-ce que tu dirais, vu que tu as pas mal un peu fouillé le cerveau, tu dirais qu'il a tendance, notre cerveau a tendance un peu à noircir le scénario?
Ouais, en fait, notre cerveau, son but, c'est qu'on se fasse pas rejeter du groupe. C'est qu'on reste avec tous les humains. Parce qu'à partir du moment où tu te fais rejeter, il y a des milliers d'années, ça pouvait causer ta mort, en vrai.
Bien sûr, l'isolement.
Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, si tu te fais rejeter de ton groupe de potes ou de ta classe, c'est relou, mais tu vas pas en mourir.
Normalement, non.
Normalement, non. Tu prends pas trop de risques à te faire rejeter par une personne inconnue que tu croises dans la rue.
Mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui de l'intégration, qu'elle soit effectivement amicale, familiale, professionnelle, et il peut y avoir des conséquences aussi un petit peu dangereuses. Quoi.
Ouais, carrément. Et la peur du rejet, elle est très importante, et des fois, à juste titre. Hein. Si tu te fais rejeter de ta famille, c'est quand même très compliqué de le vivre.
Bien sûr.
Par contre, quand tu te fais rejeter des inconnus dans la rue, imagine, tu arrêtes une personne pour discuter avec elle, elle te dit qu'elle a pas le temps, là, ça va. Pour autant, ton cerveau, il a quand même très peur de ça. Et donc, il faut distinguer un peu le rejet valable du rejet hypothétique et un peu inutile, entre guillemets. Donc, moi, c'est cette chose-là que je m'exerce, enfin, que j'essaye de faire à chaque fois que j'interagis, c'est de me dire, est-ce que l'excuse que j'ai actuellement, elle est valable, ou est-ce qu'elle me paraît valable, mais qu'en vrai, elle est juste là pour me protéger d'une mort hypothétique qui n'arrivera jamais, quoi.
Oui, et puis surtout, une fois qu'on, entre guillemets, même si on a été rejeté par l'individu inconnu qu'on aborde, on a moins de stress pour la prochaine interaction.
Carrément, c'est génial hein, de s'entraîner à se faire rejeter, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais plus tu vas le faire, plus ça va te paraître normal et plus ça va t'échauffer en plus de ça. Donc en fait, plus tu vas tenter l'interaction, plus tu vas être à l'aise, plus ça va être facile. Et c'est un cercle vertueux, en vrai.
Au point d'en oublier un peu qu'il y a des interdictions, des frontières à le faire, quoi.
Ouais, et ça, c'est vraiment fascinant ce qu'on peut ressentir. Et j'espère que tout le monde arrivera à le ressentir un jour dans sa vie. Ce moment où ton cerveau, il est tellement échauffé et t'en as tellement plus rien à faire de la peur d'urger que tu peux vraiment interagir avec n'importe qui et tu peux vraiment, ça fait vraiment sauter toutes les barrières sociales. J'ai hésité à renommer ce livre. Enfin, au début, je voulais l'appeler en anglais, ça paraissait plus stylé, mais c'était Break Social Barrier, en mode casser les barrières sociales. À tel point, c'est un peu la méthode que j'explique de réussir à actionner un truc dans sa tête qui fait qu'il n'y a plus aucune barrière sociale. Et ça, c'est hyper agréable quand tu ressens ça parce que tu sais que tu es capable de tout, entre guillemets. Il n'y a plus vraiment de timidité qui te freine et ça, c'est trop cool.
Et je pense que c'est un désir partagé par beaucoup, hein, sincèrement. Ouais. C'est vrai que, encore une fois, que ce soit pour une vie professionnelle, amoureuse, amicale, épanouie, quoi, ça peut parfois, ça peut freiner énormément.
Ouais, carrément.
Et alors, j'aimerais qu'on aborde aussi ces biais avec humour, parce que tu n'en manques pas dans ton bouquin et je crois aussi dans tes spectacles. Il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'effet projecteur. Et j'aimerais bien qu'on puisse un peu soulager les gens avec ça. En quoi il consiste cet effet et de quelle manière il peut aider à surmonter son anxiété?
Alors, l'effet projecteur, moi j'aime bien l'appeler l'effet arrête de croire que tout le monde te regarde.
Oui.
C'est assez marrant, j'aime bien le renommer, c'est assez clair. Et l'idée en fait, c'est que je suis tombé sur une étude d'un chercheur, je crois que c'est Thomas Jilovic, j'espère que je prononce bien, qui a fait une étude hyper intéressante où il réunit des gens et il leur fait porter des t-shirts un peu ridicules, avec des têtes de Bob Marley, de plein de stars différentes comme ça. Et ensuite, ils prennent ces sujets et ils les font se balader un petit peu parmi plein d'autres gens, plein d'autres personnes. Et à la fin, ils demandent au sujet qui avait des t-shirts bizarres, combien pensez-vous qu'il y a de personnes qui ont remarqué vos t-shirts? Essayez d'estimer le nombre, etc. Et globalement, ils estimaient tous 5 fois plus que la réalité.
D'accord. Oui.
Et ça, c'est hyper intéressant. Après, l'étude a été remenée, etc. Donc, c'est assez, c'est une étude assez valable, assez fiable. Et ce que ça veut dire, en vrai, dans la vie de tous les jours, c'est que si tu penses qu'il y a 10 personnes qui ont remarqué que tu étais mal coiffé, que tu avais un bouton sur ta tête ou une tache sur ton t-shirt, en vrai, statistiquement, il n'y en a que 2.
Ouais. Gardons en tête qu'il faut diviser par 5 toutes les impressions. En fait.
Toutes les impressions et le fait qu'on pense que les gens nous regardent. Et ça me fait marrer, c'est un peu un paradoxe de se dire que si tout le monde est concentré sur soi en se disant les gens me regardent, alors ça veut dire que paradoxalement, personne ne se concentre réellement sur nous. Puisque tout le monde est concentré sur soi.
Oui, si on le vit, pourquoi les autres ne le vivraient pas en
Exactement.
Vrai.
Ouais, ouais. Et tout le monde se pose la question de qu'est-ce que les gens pensent de moi. Donc personne ne se tourne vraiment sur toi en vrai. Et c'est ça qui me fait marrer. Ce petit paradoxe, c'est cool.
Et ça, j'avoue, l'effet arrête de croire que tout le monde te regarde.
Ouais, c'est ça.
Ou l'effet projecteur pour être un peu plus du coup.
Ouais,
sérieux,
c'est ça.
Du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on croit souvent que la timidité, en fait, est un obstacle. Et toi, en réalité, tu essayes de partager qu'elle peut être bénéfique, un peu cette timidité. Tu dis un mot qu'elle peut être indicateur de quelque chose qui est important pour nous. Alors, tu pourrais expliquer un petit peu ça? Qu'est-ce qu'elle indique, cette timidité aussi?
Ouais, je suis convaincu que la timidité, c'est pas juste un frein. C'est vraiment... un indicateur du coup pour savoir où est-ce qu'on veut aller, puisque si on est timide de faire une action, en vrai c'est qu'on a envie de la faire. Parce que par exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple des élèves qui s'en fichent un peu quand ils sont en cours et qui sont très à l'aise, mais qui sont un peu les mauvais élèves de la classe entre guillemets. Ils sont pas du tout timides et des fois tu te dis mais comment ils font pour être aussi à l'aise et s'en foutent complètement? C'est parce qu'ils s'en foutent complètement en fait. Ils en ont rien à faire de la classe et eux ils sont peut-être passionnés par d'autres choses qui les rendraient très timides s'ils devaient vraiment performer là-dedans. Donc en fait, quand on est timide de faire quelque chose, et on est tous à un moment donné dans notre vie timide, peu importe l'âge, peu importe le moment, à ce moment-là, c'est un indicateur que c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc c'est trop cool, parce que ça veut dire qu'on peut aller vers là.
Ouais.
On se dit, ok, ça veut dire que c'est quelque chose d'important, je peux aller vers ça, je peux progresser là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que quand tu n'es pas timide de quelque chose, tu t'en fous, ça ne veut pas dire ça.
Bien sûr, oui.
Mais par contre, si tu es timide de quelque chose, il y a de très fortes chances que ce soit parce que tu aimes bien cette chose-là.
Et en étudiant aussi un peu le cerveau, tu t'es rendu compte, et tu le partages dans ton bouquin, que finalement, les timides ressentent, ou en fait, ils ont multiplié un peu les réactions émotionnelles. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait, dans la timidité? Qu'est-ce qui fait que les timides ont une réaction plus poussée, plus intense que des gens qui ne le sont pas?
Ouais, ça, c'est intéressant. En fait, en général, les timides, ils ont tendance à plus penser que la moyenne des gens. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'on ose moins agir, qu'on ose moins tenter des choses, parce que tu es plus dans ta tête. Et c'est généralement une conséquence de pourquoi tu, enfin une cause de pourquoi tu penses plus, c'est globalement parce que tu ressens plus d'émotions, en vrai. Parce que ce qui fait que du coup ça embrouille ton cerveau. Après on peut partir un peu plus dans le détail, mais l'idée qu'il faut retenir c'est que plus tu vas ressentir d'émotions et plus ces émotions vont être fortes, plus il y a de chances que ça te paralyse, en vrai, ce qui est normal, puisque tu vas avoir beaucoup plus de pensées, tu auras moins de pensées pour être fluide et aller là où tu veux aussi. Et du coup on peut aussi, ouais, c'est assez corrélé le fait que souvent quand t'es très émotionnel, t'es aussi plus timide. Parce que tu sais aussi comment tu vas réagir, en vrai.
Bien sûr, ouais.
Et ça, c'est passionnant.
Et ça, tout à l'heure, on parlait effectivement du coup de ces deux facteurs, c'est nouveauté et ou quantité. Quand on a quelqu'un de nouveau, ou une situation nouvelle, ou quand il y a beaucoup de gens, je pense notamment aux premières rencontres, entretien d'embauche, on le disait tout à l'heure, rendez-vous amoureux. Il y a aussi la crainte de faire mauvaise impression. Et à ce moment-là, tu parles de l'effet de halo.
Ouais.
Alors, de quoi s'agit-il et c'est quoi un peu tes astuces pour cette bonne première impression qu'on cherche souvent à faire?
Ce qui est fascinant avec l'effet de halo, c'est que on est tous aussi victimes de ça, c'est encore un biais cognitif. Dès qu'on interagit avec quelqu'un, tu vois, la première fois que je t'ai vu, Xavier, j'ai forcément eu une première impression de toi. Et toi, inversement aussi, tu m'as vu arriver en retard avec le gars qui a pris un Vélib, bah, t'as forcément une première impression de moi, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est parce qu'on a interagi. Si on n'avait pas interagi, si je venais pas au podcast et que j'étais juste passé devant ton podcast, devant ta salle, tu m'aurais jamais vu, en vrai. Et tu m'aurais pas, t'aurais pas eu une première impression de moi. Tu m'aurais oublié 10 secondes après parce qu'on n'aurait pas interagi. Et donc, moi, mon but quand je rencontre des personnes, c'est pas de faire une première impression positive. Parce qu'on entend souvent dire qu'il faut absolument faire une bonne première impression. Je vais la refaire. On entend souvent dire qu'il faut faire une bonne première impression, que c'est mieux, que c'est hyper important. Et en fait, moi, je pense que le plus important, c'est de faire une première impression. Et le meilleur moyen de faire une bonne première impression, c'est d'être soi-même. Parce que peu importe comment la personne recevra ce que tu présentes, l'important, c'est que tu montres qui t'es. Parce qu'en fait, t'as aucun moyen de contrôler comment la personne va réagir par rapport à toi. Si ça se trouve, moi, j'ai un cousin qui s'appelle Xavier, et je déteste ce cousin. Et du coup, quand tu m'as dit Xavier, j'ai fait « Ah, red flag sur Xavier ».
Un plus.
Et au contraire, ça se trouve, j'ai un cousin qui s'appelle Xavier, et je l'adore. Et du coup, je me suis dit « Xavier, il va être trop cool ». Et en fait, ça dépend pas de toi.
Oui, tout est subjectif.
C'est ça. Ouais. Alors que la seule chose qui est importante, c'est que tu montres qui t'es réellement et que tu essaies d'être toi-même au maximum pour que ça ait du sens et que notre interaction ne soit pas faussée. Et que plus tard, si j'ai fait une bonne première impression de toi, bah, ça soit une impression de qui t'es réellement. Et pas que dans 6 mois, je me dise, en fait, Xavier, il est pas du tout comme ce que je pensais, c'est dommage.
Ouais, parfois, effectivement, la réalité après peut être autre sur le long terme dans les relations. Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que mon but dans les premières impressions, c'est vraiment d'être moi-même. Peu importe ce que les gens penseront de moi, entre guillemets. Mon but, c'est vraiment de me comporter comme j'ai envie d'être dans ma tête et comme je pense être.
Et alors, pour le coup, il y a des techniques un peu pour identifier. Alors, j'ai pas envie de diviser le bien et le mal, hein, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont susceptibles, on va dire, de nous plaire et d'autres avec lesquelles on est susceptible de beaucoup moins connecter? Voilà, sans parler de mauvaise ou bonne personne, c'est pas du tout le but, mais est-ce qu'il y a des manières un peu tout de suite d'identifier un peu ça?
C'est intéressant. Moi, il y a un concept aussi dont je parle que j'aime beaucoup, qui est le needy versus non-needy. Alors, en français, on pourrait dire dépendant versus pas dépendant, mais je trouve pas que la traduction est très bonne, donc j'ai gardé le terme needy dans le livre. Et l'idée, c'est que quand tu rencontres des nouvelles personnes et quand tu interagis de façon générale, tu vas rencontrer des personnes qui vont être plus ou moins needy ou non-needy. Donc, quelqu'un de needy, ça va être quelqu'un qui a besoin absolument de la validation des autres, qui est prêt à changer un petit peu sa personnalité ou son avis pour plaire aux autres. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est vraiment soi-même, c'est quelqu'un qui dépend beaucoup des autres et qui a envie de plaire absolument, peu importe. Alors que quand t'es non-needy, là où ça devient intéressant, c'est que t'es plus en train d'essayer absolument de plaire aux autres, mais t'essaies de voir si les autres te correspondent.
Et est-ce que tu crois qu'il y a un risque que les gens pensent que finalement on est des manipulateurs, manipulatrices tu vois, ou juste des stratèges, tout en essayant de rester sincère? On cherche naturellement à dépasser une timidité, mais on met en place des plans d'action, quoi.
Ouais.
Comment essayer de rester un peu équilibré, de pas se sentir un peu, entre guillemets, néfaste dans sa démarche, quoi?
Ouais. Ça, c'est vraiment ce que je voulais éviter avec le livre. C'était de pas faire un guide pratique de manipulation pour que les gens nous apprécient, en vrai. Ça aurait été très bizarre. Mais il y a des livres comme ça qui existent. Et il y en a pas mal, d'ailleurs. Et moi, la stratégie que je me suis dit... La stratégie que j'ai trouvée être la meilleure pour éviter ça, c'est de se dire, en fait, juste le but final de tout ça, c'est que tu arrives à être toi-même avec n'importe qui quand tu veux. Parce qu'à partir du moment où tu pars de ce postulat, tu vas pas utiliser de technique pour changer ta personnalité, prendre une voix plus grave, pour être plus intéressant ou plus... Enfin, je sais pas quelle autre astuce tu pourrais donner. Et quand tu juste essayes vraiment d'être toi-même, et si c'est vraiment ton but, et qu'il y a des techniques possibles pour réussir à être à l'aise devant tout le monde, en étant soi-même, tu peux pas être malveillant. Et après, sur le côté manipulation, en fait, on se manipule tous en continu, en vrai. Là, tu vois, quand on interagit, les choses que je te raconte et les réponses que tu me donnes et inversement, ça nous influence et ça va influencer notre fin de journée, peut-être nos quelques prochains jours, etc. Et toutes les interactions que tu as avec quelqu'un, bah, y a une influence mutuelle, c'est normal. Et on se manipule tous tout le temps. La question, c'est quel est le but de la manipulation et est-ce qu'elle est consciente ou pas?
Oui, donc du coup, une manipulation peut être quand même un peu positive et constructive.
Ouais, en fait, si la manipulation était tout le temps négative, ça voudrait dire que tous nos échanges sont négatifs. Okay. Ce qui n'est pas vraiment le cas. On n'est pas en train d'échanger là dans un but de manipuler l'autre de façon négative. On interagit et on s'influence mutuellement. Et c'est le propre de l'humain, je pense.
Ouais, bien sûr. Et au contraire, je trouve que parfois, ça permet d'en extraire des conseils, des recommandations. Et pour ça, ton parcours, il est intéressant. Et tu t'inspires de d'autres parcours, notamment, et je l'ai bien aimé, ça, c'est ceux des humoristes qui t'inspirent pour réussir à briser la glace ou rebondir.
Ouais.
Lorsque tu es sur le point de rencontrer quelqu'un ou d'arriver quelque part, est-ce que tu peux nous en dire plus? De quoi tu t'inspires chez les humoristes?
Alors en fait, j'ai rencontré un humoriste après une soirée dans un bar, façon aléatoire, et j'ai discuté avec lui. Et c'est un gars qui faisait beaucoup d'impro. Et sa méthode, moi, ça me fascinait parce que sur scène, il était vraiment inarrêtable. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on lui balançait un sujet, il demandait des sujets aux gens et il était capable de rebondir à chaque fois sur les sujets qu'on lui donnait. Et je trouvais ça fou. Et je me suis dit, ce mec doit être incroyable quand tu discutes avec lui, doit avoir une infinité de conversations. Tu vois. Et c'est un peu le cas. Et sa stratégie, elle est hyper simple. C'est qu'en fait, non seulement il s'entraîne beaucoup à interagir, donc en fait, au bout d'un moment, il a de plus en plus d'improvisations qui lui viennent, c'est normal. Mais en plus de ça, en fait, il a un stock de phrases et de choses déjà prévues dans sa tête, de pseudo-techniques, de pseudo, on va dire, improvisation, mais qu'il a déjà préparé avant. Et ça, c'est fascinant et tu peux l'adapter aussi aux conversations. Et il me disait qu'en fait, le simple fait d'avoir cette phrase-là en tête et cette possibilité de rebondir si jamais il y a un blanc, il s'en servait plus. Par contre, ça libère complètement sa créativité, ça lui enlève tout stress, et ce qui fait qu'il peut vraiment improviser après ça.
D'accord. Un peu des remarques testées et approuvées, quoi.
Ouais, c'est ça. Par exemple, je sais pas, il va lancer un sujet, on lui dit le football, et puis là, il va avoir 3-4 vannes sur le football à faire si jamais il en a pas qui lui viennent sur le moment.
D'accord. Ok.
Et en vrai, ça peut être pareil quand t'interagis. Si la peur que t'as et qui t'empêche d'aller voir les autres, c'est de te dire qu'est-ce que je vais leur dire, bah prépare des questions marrantes, prépare des questions cool. Et si t'as une dizaine de questions qui marchent tout le temps, qui sont très sympas, en fait, tu vas te remarquer très vite que tu vas plus te servir de ces questions-là, mais que ça va te rassurer et que tu pourras après poser des questions qui te viendront sur le moment et qui seront full authentiques, complètement authentiques. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, je me suis amusé à mettre une liste de mes 101 questions.
Mais oui, donc si jamais on en manque, clairement,
voilà, il y en a une centaine.
Ça.
C'est ça.
C'est laquelle un peu ta préférée que tu utilises le plus souvent?
Moi, celle qui me fait très rire et qui aide beaucoup à briser la glace, c'est sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu à l'aise avec le silence?
Ah, pas mal.
Et ça, dès qu'il y a un blanc, c'est très marrant à placer parce que du coup, les gens disent « Moi, je suis à l'aise, mais là, le silence, c'était pas très à l'aise. » Et après, t'interagis sur ce qui se passe. Et du coup, tous les prochains silences, ils sont plus marrants. Ils sont beaucoup plus marrants.
Ça, c'est pas mal. Et beaucoup moins gênant. Et pour le coup, comment t'arrives à repérer un silence, utile et agréable versus un silence un peu gênant et pesant?
Ouais.
Parce qu'il y en a. Ils sont riches, hein, ces silences, mais ils peuvent être aussi un peu flippants.
Bah, ça, je pense que c'est un peu du ressenti, en vrai. On ressent tous, à un moment donné, quand tu discutes avec quelqu'un, souvent, en plus, au début, tu dis wow, « Waouh, là, il y a un silence et c'est bien gênant. Il faut que je comble. » Ou alors, il faut qu'on laisse le silence, mais il faut qu'il se passe un truc, quoi. Et puis, des fois, tu es avec tes potes, des gens très proches ou de ta famille, etc., que tu connais très bien, et il y a un silence et t'es juste « Ok, c'est cool. » Et là, je passe un bon moment avec la personne, même si on ne parle pas depuis 10 minutes.
Bien sûr. Et du coup, faut faire confiance quoi, un peu à son intuition, ou est-ce qu'il y a des... Tu vois, ce qui est typiquement des... Alors, c'est difficile d'identifier des choses dans le cerveau, mais est-ce que physiquement, il y a une posture? Est-ce qu'il y a des gestes qui peuvent venir aider ou trahir un peu le silence?
Ah, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai pas vraiment d'infos sur ça, en vrai. Par contre, je mets une supposition. C'est qu'en général, quand les silences sont désagréables, on stresse un petit peu plus. Donc, il y a peut-être des légers signes de stress qui peuvent se remarquer. Ça peut être des déglutitions, ça peut être une accélération du clignement des yeux. Souvent, c'est lié à ça. Peut-être des gestes manipulatoires, donc la personne va se toucher un peu plus ou autre. Et donc, si tu vois que l'autre est dans cette situation, c'est cool d'avoir les infos et peut-être se dire « Vas-y, je vais interagir pour la mettre à l'aise. »
Oui. Alors, ouais. Ou de dire qu'on l'identifie, ça, de dire qu'on l'observe pour un peu désamorcer, ça peut aider?
Ouais, je pense que moi, je suis partisan de dire un peu tout ce que j'ai en tête. J'ai un peu une règle d'or, c'est de me dire quand j'interagis avec quelqu'un, il faut que je lui dise ce que j'ai envie de lui dire, quoi qu'il. Et du coup, je pense que si tu te dis « Bon, c'est cool, on a l'air tous les deux à l'aise avec ce silence », mais d'un point de vue ironique, ça décomplexe tout de suite. En fait, le fait de verbaliser le truc, tu vois, ça casse directement le problème.
Et alors, c'est marrant, c'est qu'il y a un président américain dont tu parles, qui est Barack Obama.
Ouais.
Lui, il a une technique, enfin, il l'a toujours, je pense, j'imagine, il l'avait en tout cas, il a une technique bien à lui.
Ouais, c'est fascinant.
On la partagerait pas, quand même.
On peut la partager.
Pour qu'on soit tous comme Barack Obama.
Bah, si tu regardes les interviews de Barack Obama, tu vas te rendre compte très très rapidement qu'il est tout le temps dans la même posture que les gens avec qui il parle. Et ça, c'est le concept de synchronisation, en vrai. C'est une technique qu'on fait naturellement, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. On a forcément déjà vécu le moment où tu marches avec un pote, et tu te rends compte que t'es parfaitement synchronisé au niveau des pieds. Et tu marches en même temps, au même rythme. Et c'est un truc qu'on fait naturellement entre humains. C'est un peu un truc sociologique de se dire, on est de la même espèce, regarde, on fait la même chose. Et tu peux un peu forcer ce process en te mettant naturellement, enfin volontairement, dans la même position. Par exemple, là, tu vois, si je me mets bras comme ça, on est un peu dans
on
la même position.
On est un peu pareil, quand même. Ouais
on est...
T'as les jambes croisées?
Non.
Non, ouais, pareil.
Ah, toi non plus.
qui le Barack Obama de l'autre?
Eh bien là, je crois que c'était naturel, on s'est pas vu, tu vois, on n'a pas fait attention. Et ça fonctionne très bien si tu veux un petit peu accélérer le process de la mise en relation et donner un peu l'impression à l'autre, volontairement, que ça se passe bien. Et ça, encore une fois, c'est des petites techniques en plus qui sont cool à appliquer. Mais si déjà t'as appliqué tout le reste, des vraies techniques de sois toi-même et réussis à éliminer le regard des autres. Ça, c'est des petits trucs pour sublimer un peu les interactions, quoi.
Super, ça fait, c'est une bonne... Soyons tous du coup Barack Obama et essayons de sublimer nos interactions. Non, mais c'est intéressant. Ouais. On va bientôt conclure.
Ouais.
Mais même si on était très sérieux, j'aimerais bien qu'on conclue de manière un peu plus amusante. Charlie, c'était OK.
Ça me va.
En gros, on expliquait tout à l'heure qu'il y a un écart entre l'importance que nous accordons au regard des autres et celle que les gens nous accordent réellement. Pour convaincre un peu les derniers sceptiques, ou défie les auditeurs plutôt réservés aussi. Quelle pratique tu suggères d'essayer en public pour atténuer cette illusion d'être sous les projecteurs.
Ah, génial. Moi, il y a trois choses que j'ai fait et que j'adore.
Vas-y.
Et si les gens veulent le refaire, c'est vraiment très drôle. La première, c'est de s'allonger par terre. S'allonger
dans
par terre,
rue.
Dans la rue. De préférence dans une rue où il y a beaucoup de passages. Et tu vas te rendre compte que personne ne vient te voir. Ce qui est fou, c'est que t'es par terre allongé, les yeux ouverts, les gens passent à côté de toi, te regardent. Et moi, j'ai fait ça pendant, je sais plus, une demi-heure. Et
ah oui.
Au bout d'une demi-heure, il y a une personne qui vient me dire « ça va ?» J'ai dit « ouais », et puis elle est partie. C'est la seule interaction que j'ai eue.
Une demi-heure ?
Ouais.
Ok.
Et c'est assez challengeant de le faire, mais au bout de 3 minutes, tu te rends compte que tout le monde s'en fout. Et du coup, ça fait vraiment du bien.
Ok.
Voilà, ça c'était la première. La deuxième, c'est assez drôle aussi, c'est... d'essayer, enfin c'est moins drôle mais c'est assez sympa, c'est d'essayer de méditer dans la rue. Alors méditer, très simplement, tu fermes les yeux, tu essaies de penser un peu à des choses, et le fait de le faire sur un banc, en vrai d'un point de vue extérieur, t'es juste en train de fermer les yeux et de penser un truc dans ta tête. Mais c'est assez drôle de le faire parce que tu te rends compte que c'est un peu challengeant de faire ça, et c'est un peu aussi absurde parce que tu te dis qu'en fait personne ne sait ce qui se passe dans ta tête, et juste les gens voient quelqu'un fermer les yeux sur un banc,
oui,
ça va très bien. Mais quand
c'est une sieste restaurative,
c'est ça. Mais les gens qui sont un peu timides, ils comprendront, je pense, ce que je veux dire. De oui, c'est pas facile de faire ça. Et puis une dernière, est-ce que j'en ai une drôle ?
Surtout qu'on est inondé, pardon, je pense à ça, mais on est inondé par ses pensées parfois en méditant.
Ouais.
Et donc elles doivent s'accélérer.
Ouais,
ça doit être assez
fou. Quand tu le fais, ouais, c'est assez marrant. Et tu te dis, est-ce que les gens me regardent ? Attends, arrête de penser à ça. Et tu continues.
En plus, on a les yeux fermés, donc on se rend pas compte.
Tu sais pas, tu dis à ton moment, j'ouvre les yeux, il y a 3 personnes qui me regardent en mode, qu'est-ce qu'il fait, ce mec bizarre ? Pas du tout. Personne ne s'arrête pour toi. Et la dernière, elle est un peu plus challengeante, mais elle est assez marrante. Et c'est une réaction très drôle. C'est dans des endroits où il y a beaucoup de gens, mais ça, c'est le level ultime. Donc, quand les gens, ils sont très à l'aise, si vous êtes déjà très à l'aise ou que vous voulez vraiment vous challenger au level
après
max,
la méditation, assise, les yeux fermés, l'être allongé dans la rue, c'est le grand défi.
C'est le grand défi. C'est d'aller dans un endroit où il y a pas mal de monde. Donc, ça peut être le métro, ça peut être en terrasse, ça peut être n'importe où. Et tu dis aux gens, bonjour à tous, je passe une très bonne journée. Et t'observes les réactions. Et ça, c'est très challengeant. Je l'ai fait quelques fois et vraiment, c'est dur à faire, même quand t'es à l'aise, en vrai. Et je vous spoil pas, mais il y a toujours des réactions qui reviennent qui sont très identiques quand tu balances cette phrase-là. Alors je sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai dû le faire une dizaine de fois, les gens réagissent de la même façon. Et ça m'a fait taper des barres. Donc c'est une petite expérience personnelle.
Trop bien.
Donc si les gens testent, beaucoup. C'est assez dur à faire, mais c'est très drôle.
Je testerai.
Oh, je veux une vidéo de toi, Xavier, qui fait ça.
Oh, ouais, franchement, je peux demander. Ok, super. Marseille, je me suis engagé au micro, c'est trop tard. Bon, merci infiniment, Charlie, d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous partager ton expérience d'ancien timide, mais aussi toutes ces clés, tous ces conseils pour agir malgré la peur. Alors, je rappelle que ton livre devient un aimant social et disponible aux éditions Albin Michel. Salut, Charlie.
Salut, Xavier. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.